Avec Jean Deveau maintenant pour commenter l'actualité. Bonjour officiellement, Jean.
Salut Robert, ça va bien toi?
Ça va très bien. Écoute, moi je suis assez content. On a un colisée tout neuf à Trois-Rivières. On a fait ça, la petite visite virtuelle. Tu iras voir ça. C'est beau, c'est du neuf.
Moi je me pose une question, Robert.
Oui.
Écoute, je ne questionne pas du tout là, la qualité là, de l'édifice que je vais comparer, là, et on en a besoin à Trois-Rivières, mais l'amphithéâtre semblerait coûter 62 millions et demi.
Oui, à peu près, oui.
Je regarde le Colisée et l'amphithéâtre, mais ça me rendait plus pour mon argent que le Colisée. Tu sais, l'amphithéâtre, c'est quoi, là? C'est une grosse clope de ciment, un stage puis des rideaux, là. C'est grosso modo, là, c'est ça. Tandis que là, le Colisée, il y a des sièges, un grand parking, une bâtisse qui a quatre murs, un toit, tu sais. Si je compare les deux, là, le Colisée, il a de l'air de 60 millions. L'amphithéâtre, puis encore là, l'amphithéâtre, j'adore la place, hein, c'est une place qui est magnifique. Là. Je conteste pas qu'on n'a pas besoin de l'amphithéâtre, on en a besoin. Là. Mais au niveau des coûts, je pense que le Colisée a peut-être été mieux géré.
Hey, là, toi, t'es en train d'ouvrir une canne, là, OK?
Mais faut dire, non, mais, non, mais ça, faut... ouvrir des cannes.
Oui, je sais, mais
faut... regarde l'amphithéâtre Cogeco, on s'entend-tu, là? C'est trois murs en toile avec une sable de ciment, ben, c'est...
Hey, là, t'es... Non, non, là, tu vas trop loin, maudit tabarnouche.
Non, non, mais...
Pas... Non, 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 va pas là.
C'est moins compliqué de faire un amphithéâtre qu'un colisée, là.
Ben, non, tu sais, là, moi, je suis pas architecte, et puis, tu sais, il y a des façons de faire les choses. C'est pas évident, là, tu sais. C'est un amphithéâtre qui peut contenir jusqu'à 8000 personnes, OK?
Ouais,
le,
ouais.
Bon.
Ouais, mais sur les 8000 personnes, t'en as 3000 qui sont assis à la pelouse, là.
Oui, effectivement.
Non, mais tu sais, Robert, c'est dur à défendre, sérieux, là.
Non, mais ça se compare pas. Je pense que là, on n'est plus d'un banane puis d'un pomme. Puis, tu sais, tu ne peux pas comparer ces deux affaires-là. Moi, j'irais... Non, mais veux-tu... Si tu veux comparer, là, va voir l'autre Colisée du côté de Québec. Lui, il a coûté combien? Il a coûté combien?
400 millions.
400 quelques millions. OK? Ouais. Bon, ouais. Puis le nôtre a coûté 60 millions.
Oui, et tout le monde dit... 400 quelques millions, mais on s'entend qu'il y a quatre fois plus de personnes que ça soit dedans. Donc, ça veut dire que, dans le fond, il aurait dû payer 240. Et tout le monde dit qu'à Québec, ils ont payé 100 millions de trop. Donc, on est rendu à 300. On n'est pas loin.
Bon, ça, j'aime ça, ces comparaisons-là.
Ben non, mais ce que je veux dire, c'est que... Écoute, Robert, 60 millions, là, c'est des sous. Puis quand je regarde le Colisée, je vois les sous. Quand je regarde l'amphithéâtre, je vois une facture 30-40, peut-être. Mais 60, écoute, j'ai toujours dit d'ailleurs, hein, je m'avais parlé dans une autre chronique il y a bien longtemps, hein, j'ai toujours dit, le 60 millions à l'amphithéâtre, je le vois pas. Il est peut-être là, là, mais je le vois pas.
Okay.
Tu sais, comme on dit en anglais, le perceived value, là, tu sais, la valeur qu'on perçoit quand on regarde l'édifice, là, écoute, c'est du terrassement, du ciment, puis un stage avec trois murs dans le rideau.
Bon, là, regarde...
Bon, ben, t'as des toilettes, je suis d'accord, il y a un petit restaurant, puis un
arrête,
petit bar, là.
Arrête, non, là, je t'arrête, là, on va respirer par le nez... On va y penser, puis on va revenir là-dessus la semaine prochaine.
J'allume une mèche, tu penses?
Là? Ben oui, c'est ça. Fait que là, moi, je vais l'éteindre. Puis d'ailleurs, si tu veux en débattre avec le collègue Patrick, je sais que tu vas faire de la radio pour me remplacer à un moment donné cet été-là. Vous reviendrez là-dessus. Parce que moi, l'amphithéâtre, là, j'ai, pour moi, puis pour ma conjointe, entre autres, qui aime beaucoup les spectacles,
j'adore la place.
Ça a une valeur incommensurable, OK?
Non, c'est une place magnifique. Ça, on est d'accord avec ça, puis on en a besoin, là. Ouais. Puis rien que ça a peut-être coûté plus cher.
Ah, OK. Donc, on ferme le dossier. On va rouvrir un autre dossier, puis celui-là également, tant qu'il n'arrivera pas à terme, on va en reparler. Le fédéral jongle toujours avec l'idée d'avoir un petit document qui pourrait démontrer que tu as été vacciné, avec lequel tu pourrais voyager éventuellement. J'ai passé un petit coup de fil ce matin à un porte-parole des agences de voyage au Québec. Moscou Côté, qui s'appelle le président de l'association, là. Puis, je peux-tu te dire une affaire? Il a pas voulu me parler tout de suite. Ils sont pas prêts. Puis, je pense que l'industrie du voyage est pas très, très chaude à l'idée d'instaurer un passeport vaccinal pour ceux qui vont vouloir voyager.
Ça, c'est évident qu'ils sont pas en faveur de ça, mais ils n'auront pas le choix. Tu rappelleras ton monsieur la semaine prochaine quand la communauté européenne aura exigé un passeport. T'as quoi? 30% des voyages cet été qu'ils espèrent vendre ou cet automne qui sont en Europe? Ça veut dire que tous les clients ne pourraient même pas y aller, là. la force économique va forcer le passeport vaccinal parce qu'on ne pourra pas voyager comme on veut, en toute liberté, si on n'a pas cette preuve-là. Si tu regardes, par exemple, là, les chiffres sont sortis ce matin, si tu regardes, par exemple, tu as 1,5% des voyageurs qui sont arrivés à Dorval et les trois autres aéroports canadiens depuis le mois de février, depuis qu'on a les statistiques, qui sont porteurs du virus. Il y a eu au-dessus de 5000 cas. Il y a eu au-dessus de 5000 cas au Canada qui sont carrément venus de l'extérieur depuis le mois de février. Là. C'est documenté, là, oui. Dans les journaux ce matin.
C'est vrai, c'est
on
vrai.
On n'aura pas le choix d'aller là, là. On n'aura pas le choix. Puis c'est pas plaisant, là. Je dis pas que c'est plaisant. Mais on n'a pas le choix, ça va être ça, ou il n'y aura pas de voyage. Donc, tu diras, ton monsieur voyagiste, je suis sûr que même s'il dit à reculons, il n'y aura pas le choix. La communauté européenne, c'est à peu près le plus gros marché après le Sud pour les agences de voyage au Québec. Donc, si tu ne peux pas aller dans les 27 pays de la communauté européenne, tu es tout de suite pas dans le business.
Hey, je ne sais pas si c'est un symbole de décider aujourd'hui de lancer la vaccination assis dans ta voiture à l'aéroport à Montréal, à Yule. C'est drôle.
L'explication qui a été donnée ce matin, c'est qu'il y avait besoin quand même d'un immense parking, parce que les gens, il faut qu'ils attendent 15 minutes après la vaccination. Donc, c'était la place qui était le plus facilement disponible présentement, étant donné que les aéroports n'ont presque pas d'activité. Donc, ils ont des immenses parkings de libre. Et dans le fond, quand tu y penses, c'est très logique.
Oui. Mais il y a peut-être un petit symbole en arrière de ça.
Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, Robert.
Ouais. D'ailleurs, ils vont étendre ça éventuellement à l'ensemble du Québec. T'en penses quoi de cette technique de vacciner le Québec et le Canada de cette façon-là, si dans la voiture?
Moi, tout ce qui peut accélérer le processus de vaccination de la population de façon sécuritaire, je suis pour. Et moi, je trouve que c'est tout à fait sécuritaire la façon que ça a été planifié. On s'est basé sûrement sur ce que les Américains ont fait. Les Américains le font depuis déjà 3 mois. Donc, il y a beaucoup de statistiques. Le temps d'attente doit être fait là aussi, parce qu'évidemment, il peut y avoir là, des effets secondaires. Il faut attendre le 15-20 minutes après. Là. Mais moi, si ça accélère le processus de vaccination, si ça nous rapproche de plus en plus d'une vie plus normale qu'on a perdue depuis un an, je suis totalement pour.
Il y a cet auditeur qui m'écrit sur 98-98-5, il dit « Monsieur Pilote, moi j'ai une bonne idée pour la vaccination, puis pour rejoindre peut-être certains groupes un peu plus récalcitrants, on devrait se rapprocher des communautés religieuses, peu importe la religion, là, pour faire vacciner les gens, peut-être dans des lieux de culte, me dit-il. Qu'en penses-tu?
Ouais, » Je rappelle un certain évêque, qu'est-ce qu'il avait dit à peu près un mois et demi, 2 mois, quand il avait dit de ne pas toucher au vaccin. Là, je me souviens plus c'est lequel, c'est la Moderna, je pense, qui venait de cellules souches, qui venait de fœtus de bébé, à cause que la culture des premières cellules de ce vaccin-là datant de plusieurs années venait peut-être d'une cellule souche de bébé. Je ne pense pas que la religion a beaucoup d'affaires. Moi, je fais plus confiance en la science qu'à la religion, mais je comprends le point du monsieur, c'est pas un mauvais point. Il y a des gens pour qui la religion, c'est ce qui est le plus important. Et peut-être qu'en effet, ces gens-là pourraient peut-être suivre les indications de leurs leaders religieux, plus que ceux de la santé publique. C'est pas de mauvaise idée.
Retour maintenant sur la commission Laurent, la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse. Je pense que c'est un rapport qui est marquant, qui va marquer l'histoire pour le futur, puis les mois à venir, puis les années à venir. Maintenant, ce qu'on met au cœur de cette réforme à venir de la Direction de la protection de la jeunesse, c'est l'intérêt de l'enfant. Okay? Avant ça, on se disait, bon, l'enfant est toujours mieux avec son parent biologique. Elle a confirmé, Mme Laurent, hier, que dans le fond, si le parent biologique, il est incompétent, que c'est un pas fin, puis un pas bon, puis un alcoolique, puis, OK, bien, on va lui enlever. On va lui donner à peu près 2 années, là. Puis si après 2 ans, il n'a pas démontré qu'il pouvait être un bon parent, cet enfant-là ne sera pas barouetté à droite et à gauche pendant 10 ans. On va le placer pour de bon.
Moi, je trouve ça tout à fait normal. Même, je trouve que 2 ans, c'est long. Personnellement, surtout quand les enfants sont en très bas âge, là, les impacts peuvent être énormes. Moi, ce qui m'a surpris dans le rapport, parce que je l'ai quand même là, zuté pas mal, c'est que pour le moment, je savais pas du tout, moi, que depuis la réforme Barrette, okay, l'autorité de la DPJ là, dépendait des CIUSSS régionaux. Ça, je trouve ça complètement aberrant que un système de santé comme un hôpital soit responsable de l'application et de l'organisation de la DPJ dans le milieu. C'est 2 missions qui sont totalement différentes et qui, en plus, demandent des connaissances qui sont pas du tout les mêmes. T'sais, gérer un hôpital, puis gérer une maison pour femmes battues ou pour des enfants qui sont ou des maisons d'hébergement pour des familles qui ont des problèmes au niveau conjugal, c'est pas du tout la même chose que de passer des radiographies puis se faire opérer. Je comprends pas qu'on ait mis ça ensemble, et ça c'est un autre caillou dans le soulier de la réforme Barrette qui nous saute en pleine face là, quelques années après. L'autre affaire aussi, c'est la recommandation qu'on ait un tribunal qui gère autant le droit de garde que les placements de la DPJ. Pour l'instant, c'est deux instances juridiques différentes, et on sait qu'au Québec, la loi, ça prend du temps à s'appliquer, ça prend du temps à faire valoir ses droits dans tous les domaines. Donc, c'est sûr que c'est deux entités administratives différentes qui peuvent être impliquées dans un même sujet, qui est la garde de l'enfant et le divorce des parents, ben, ça peut compliquer énormément les choses. Donc, la suggestion de faire un tribunal qui s'occuperait de toutes les questions relatives à l'enfant, qui inclurait aussi l'aspect matrimonial des parents, mais je pense que c'est super important, ça aussi. Mais il y a une affaire qui sort de tout le rapport, Robert, c'est que ça va prendre énormément de sous. Okay? On voit que tout le système de la DPJ a été sous-alimenté au niveau du financement depuis des années. Ça a été le parent pauvre du ministère depuis des années. Les gens sont épuisés, les gens démissionnent en bloc. Il y a énormément d'argent à mettre là-dedans. En fait, je dirais que la DPJ, le système de la DPJ, est probablement dans le même état que nos CHSLD l'étaient lors de la première pandémie, là. La première vague. Là. Okay? Ça a été tellement sous-financé que ça craque de partout. Et quand est arrivée la crise de la pandémie, ça l'a juste exacerbé. Toutes les tensions familiales, ça l'a fait exploser les cas, ils sont plus capables de gérer. Donc, il faudrait qu'on trouve des solutions rapides parce que ça presse.
Point de presse dans une vingtaine de minutes. On devrait assouplir les règles dans certaines régions, dans la région de Québec, la région de Québec. On devrait là, lever le pied un peu. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis je reviens un peu sur ce qu'on s'est dit hier. Hier, j'ai avancé l'idée de dire la Mauricie, le centre du Québec, on devrait faire deux régions qui sont complètement séparées. C'est pas normal qu'à Latuc, on applique les mêmes règles sanitaires que celles qui sont appliquées à Drummondville, alors qu'il y a 3 heures d'auto qui séparent les deux régions, tu comprends, là? Alors, j'espère qu'aujourd'hui, on va s'ouvrir un peu là-dessus, alors que je pense que la région de Trois-Rivières mérite quasiment d'approcher ce qui pourrait ressembler à une zone jaune.
Tu as raison que la région le mérite, mais d'un autre côté, je te dirais que, tu sais, depuis tellement de semaines, j'entends un certain M. Pilote parler de cohérence, OK? Et la cohérence veut qu'on essaye de diminuer, si possible, les frontières entre régions quand il y a beaucoup de trafic potentiel. Le problème de la TUC, je le comprends très, très bien. Le problème, c'est plutôt Trois-Rivières et de l'autre côté du fleuve, là. Okay? Trois-Rivières-Drummondville, c'est beaucoup plus proche que la TUC Drummondville, on s'entend.
Il n'y a pas un gros naturel, même. Je ne sais pas, sais-tu, Mme Dubois, la mairesse de Nicolet, qui disait ce matin, de Trois-Rivières à Drummondville, il y a 1h15 d'auto. Trois-Rivières, Québec, 1h20.
Ça serait plus facile à gérer. C'est sûr que ça serait plus facile à gérer grâce au fleuve. Il y a quand même un accès qui est plus limité, on s'entend. Il y a le pont Trois-Rivières, c'est tout. Ça serait plus facile à gérer. Est-ce que c'est pertinent de le faire? Je suis comme toi, je le souhaiterais moi aussi, qu'on ait une zone qui est jaune ici. Mais j'ai peur qu'en zone jaune, les gens de Lanaudière ou les gens d'ailleurs viennent sans venir, surtout en plus avec un beau centre-ville.
Non, mais c'est la même règle, Jean, qui s'applique. Si t'es dans une zone orange ou rouge, t'as pas le droit d'aller dans jaune. C'est exactement ce qu'on continue.
Oui, moi, je sais que les gens le font quand même, Robert.
Oui, ça, t'as bien raison, par exemple.
Hey, non, pas parce qu'on a des règles qu'on les respecte.
Puis tu parlais, en terminant, là, tu parlais de cohérence. Effectivement, c'est un discours que je tiens depuis le début. Penses-tu qu'il y a eu une grande, grande cohérence en fin de semaine lors de la manifestation à Montréal? Là, on nous a donné le nombre de constats d'infraction qu'on a donné. Là, il était 30 000, on a 28 constats. Alors que si tu es assis chez vous dans ta cour à prendre une bière avec ton voisin, ils vont te donner une étiquette de 1 500 $. Tu comprends-tu que la cohérence, t'as pas trop au rendez-vous? Là?
Ben, écoute, moi, je trouve ça complètement ridicule. Tu as parfaitement raison. Et si j'étais à la place de ceux qui ont reçu des contraventions là, qui peuvent aller jusqu'à 6 000 $ depuis 3-4 mois, écoute, je serais assez content parce que là, j'ai pas payé ma contravention, je vais aller la contester. Et là, j'ai l'argument parfait devant le juge. Écoutez, monsieur, là, il y en avait 30 000 comme moi, là. On était juste trois, nous autres. 30 000, puis ils n'ont rien eu. Donnez-moi un break. Puis, je m'excuse, mais le citoyen ou la citoyenne en question qui contesterait son ticket, il aurait raison. C'est un argument qui est irréfutable et le juge va être obligé de dire ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou.
Bon point, ça, Jean, bon point. Tu marques un point important. Effectivement, si tu as à te défendre devant les tribunaux, tu peux toujours invoquer ça. Est-ce que ce sera
accepté? Moi, il me semble que c'est évident. Puis écoute, les avocats de ces gens-là doivent trépigner d'impatience de se ramasser devant le juge puis dire, écoutez, M. le juge, expliquez-nous la cohérence que mon client, lui, paie un ticket comme ça, tandis que l'autre ne le paie pas. Tu sais, je dis, il n'y en a pas de cohérence, là. Et là-dessus, je pense que le gouvernement a manqué. Le gouvernement aurait dû tout simplement interdire cette manifestation-là près du stade olympique, parce que c'était un site de vaccination. Tu sais, il aurait pu fermer des rues, faire ça très, très gentiment, fermer des rues, puis, mettons, déplacer la manifestation de quelques pâtés de maison. Ça, ça aurait été la première chose à faire.
La deuxième chose à faire,
surtout quand tu as des personnalités publiques, comme Maxime Bernier et d'autres, aller voir les leaders qui ne respectent pas les règles, et c'était ces gens-là qui sont responsables de manifestations, tu commences par eux autres pour leur donner des bons tickets salés. Ces gens-là ont une responsabilité. Ils ont organisé une manifestation où ils ont participé fortement. Ils amènent aussi leurs disciples, disons-le, c'est quasiment des disciples dans ce cas-là, ils amènent aussi leurs disciples à la manifestation. Donc, il y a une responsabilité qui est plus grande de la part de ces gens-là. Et c'est criminel ce qu'ils ont fait en fin de semaine. Si on regarde, là, présentement, la loi, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Donc, au moins, prendre les têtes d'affiche et les pénaliser de façon à dissuader les autres de suivre le pas, là.
Jean, je te souhaite de passer.
Ça demande aux politiciens de mettre les culottes.
C'est ça. Mais ils ne voulaient pas que ça dérape. Ils voulaient garder le contrôle quand même, puis ils ne voulaient pas qu'on se retrouve avec un espèce de printemps érable. Alors, merci beaucoup d'être là comme ça, d'avoir ton bagout habituel. Et puis, pour ce qui est des amphithéâtres et du Colisée, on refera le débat un peu plus tard aujourd'hui. C'était un plaisir. Et tu sais que si tu vas à Gaspé, tu ne pourras pas aller faire de camping sur la plage, hein? Le maire a décidé de fermer les plages. Tu peux pas aller faire ton changement d'huile sur la plage, ton petit besoin sur la plage. Là. Ça, c'est. Il faudra te trouver un autre endroit pour aller camper.
Attends, mais que l'été arrive, ça va, je suis sûr que les plages vont réouvrir sur la pression économique.
Salut,
bye.
Bye. Jean Deveau et des nôtres pour commenter l'actualité le lundi et le mardi.